Écoutez voir. L'art médiéval. Écoutez voir l'art médiéval.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Écoutez voir l'art médiéval. Aujourd'hui, la tapisserie de Bayeux, une œuvre monumentale. Nous allons aborder avec Léa Moreau le prêt de la tapisserie de Bayeux à l'Angleterre, prévu pour 2023. Puis, dans une seconde chronique, allons voir le nouvel aménagement prévu pour le musée de Bayeux avec Jeanne de Saint-Sernin. Mais tout de suite, nous analysons la tapisserie de Bayeux avec Autonne Normandin et Morgane Glevarek. Bonjour Morgane Glevarek.
Bonjour.
Bonjour Autonne Normandin.
Bonjour.
Nommée tapisserie de Bayeux, cette œuvre est en réalité une broderie. Autonne, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
La différence repose sur la technique de création. Une tapisserie est tissée sur un métier manuel ou mécanique. Une broderie est cousue à l'aide de fils et d'aiguilles sur une toile. Le terme tapisserie lui est pourtant attribué. On va donc l'employer pendant l'émission. Elle se compose de laine, de lin, de chanvre et de coton. On trouve plusieurs types de points, de tiges, de couchages, de chaînettes et de fondus. Cette diversité montre une grande liberté d'exécution. L'étude de l'envers est aussi très importante.
Effectivement, on dit tapisserie à tort, mais l'usage fait que nous dirons tapisserie. Pourriez-vous, Morgane, nous faire une description succincte de ce qui est représenté sur cette longue tapisserie ?
Son ancien nom, la toile de la conquête, peut donner une petite idée. Les 58 scènes commencent par un entretien entre le roi d'Angleterre, Édouard III, et Harold, comte de Wessex, et probablement son beau-frère. Édouard III lui donne une mission, promettre la couronne à Guillaume, le duc de Normandie.
À quelle date exactement ?
En 1064. Harold part alors pour la France. Il y a quelques épisodes sur lesquels nous passons rapidement. Harold est fait prisonnier, il est libéré par Guillaume, il participe à l'expédition de Bretagne, qui est en réalité une guerre territoriale. Après ces événements, il prête serment à Guillaume et rentre en Angleterre. Peu après, le roi Édouard III meurt.
En 1066.
Exactement. Et ne respectant pas sa promesse, Harold prend sa place sur le trône. Lorsque Guillaume l'apprend, c'est le début des préparatifs de guerre. Sur la tapisserie, on voit, par exemple, la fabrication des bateaux, sur laquelle je vais revenir plus tard. À ce moment, c'est le dernier tiers de la tapisserie qui représente la bataille historique d'Hastings, qui se termine par la mort d'Harold et la fuite des Anglais. Pour résumer, l'historien Michel Pastoureau découpe la tapisserie en quatre parties. La traversée d'Harold, l'expédition en Bretagne, le parjure d'Harold et la bataille d'Hastings.
C'est surprenant que ça s'arrête à la mort d'Harold. On aurait pu terminer avec le couronnement de Guillaume, non ?
Oui, cette fin est un des mystères de la tapisserie. Le récit se termine avec la fuite des Anglais, alors qu'on aurait pu s'attendre à une scène finale dans laquelle Guillaume est couronné. Cela aurait fait un bel écho à la première scène où le roi Édouard III est sur le trône. Le fond pose des questions. Pourquoi choisir de finir sur cette scène ? Mais la forme aussi. Par exemple, les personnages sont sur deux registres, les fantassins au-dessus et les cavaliers en dessous. C'est une organisation qui n'est utilisée nulle part ailleurs sur la tapisserie. De même, la façon dont l'arbre est représenté dénote totalement. Cette partie a subi de nombreuses restaurations au XIXe siècle, ce qui peut expliquer ces anomalies. Mais en tout cas, les chercheurs se mettent d'accord sur trois hypothèses pouvant expliquer pourquoi la tapisserie s'arrête sur cette scène. Il pourrait y avoir une partie manquante, la tapisserie aurait pu subir des dégradations, ou elle aurait été amputée, volontairement ou non.
Oui, il pourrait donc y avoir une cinquième partie, mais qui nous serait inconnue. D'ailleurs, de quand date la tapisserie, Autonne ?
On ne sait pas si elle a été faite au lendemain de la bataille d'Hastings, ou bien plus tard.
Oui, la bataille d'Hastings, alors le 14 octobre 1066, si je ne me trompe pas. Et globalement, dans quel ordre se fait la lecture ?
Comme dans une bande dessinée, l'ordre de lecture se fait de gauche à droite. Mais certaines scènes se lisent de droite à gauche. L'ordre des lectures est lié à l'organisation de la tapisserie. On trouve trois registres. Au milieu, on a le registre narratif principal. Au-dessus et en dessous se trouvent des scènes secondaires dans des bordures. Dans ces scénettes, on trouve différents types de figures. Au registre supérieur apparaît un grand nombre d'animaux, notamment des oiseaux, comme des paons. Les bordures présentent quelques scènes de l'Ancien Testament et d'autres épisodes qui ont un sens profane, exemple des fables, des scènes de vie quotidienne, etc.
En effet, la tapisserie aborde des sujets disparates. Et qui en est le commanditaire ?
C'est une question épineuse. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse sûre. Mais les chercheurs s'accordent sur Eudes. Il était évêque de Bayeux et demi-frère de Guillaume le Conquérant.
Pourquoi cette hypothèse a-t-elle été retenue ?
Eudes apparaît sur la tapisserie et son nom y est brodé. Un autre argument repose sur les textes écrits sur la vie de Guillaume le Conquérant. Il concerne la scène du serment d'Harold. Auderic Vital écrit que ce serment a eu lieu à Rouen. Guillaume de Poitiers et Benoît de Saint-Maur évoquent Bonneville-sur-Touc. Weiss et la tapisserie semblent indiquer Bayeux. Il est possible qu'il y ait eu en réalité trois serments dans respectivement chacune de ces villes. Ces éléments impliquent qu'Eudes était présent dans le processus de création. Il a pu demander ou tout simplement choisir qu'on représente sa ville, Bayeux.
Très bien. D'ailleurs, est-ce que l'on sait où elle a été créée, Morgane ?
Non, on a seulement des hypothèses. Elle a été réalisée soit en France, soit en Angleterre. Dans ce dernier cas, on parle souvent du monastère de Canterbury, dans le sud du pays. Et en ce qui concerne qui aurait créé la tapisserie, on a encore des hypothèses. Par exemple, le fait qu'il y ait 9 morceaux inégaux cousus ensemble amène à penser que plusieurs ateliers de brodeurs aient travaillé à sa réalisation. Cependant, on ignore si ces ateliers étaient composés de femmes, d'hommes, d'artisans d'église ou de laïcs.
Tout comme on ignore son lieu originel d'exposition. Mais on sait qu'elle a été exposée un moment dans la cathédrale de Bayeux.
Oui, la tapisserie a dû passer par de nombreuses mains à travers les siècles. Automne, nous avons parlé du registre narratif, des scénettes, mais pas des inscriptions.
Les inscriptions peuvent amener à voir au-delà de ce qui est brodé. Sur la tapisserie, elles sont en latin et restent très mystérieuses pour les chercheurs. L'écriture et l'image sont en relation. Par exemple, les inscriptions donnent des indications temporelles ou spatiales.
Certainement, les inscriptions nous aident à sa compréhension, mais elles n'en restent pas moins complexes. Par ailleurs, des personnages reviennent souvent dans la tapisserie. Après les lettres, que donnent les chiffres, Morgane ?
Il s'agit d'une œuvre de presque 70 mètres de long, donc il y a beaucoup de personnages, plus de 600. Les deux qui reviennent le plus, presque autant l'un que l'autre, sont Harold et Guillaume. On trouve aussi beaucoup d'éléments de décor, des édifices, des arbres. Ils permettent de séparer des scènes pour rendre la narration compréhensible. La multiplication de ces éléments est aussi utilisée pour créer des effets plastiques. Par exemple, lors de la bataille d'Hastings, il y a un jeu de superposition qui cherche à créer un effet de masse et à mettre en avant les cavaliers. Ces éléments de décor peuvent aussi intéresser les historiens. C'est le cas des bateaux. On voit le processus de construction lors des préparatifs. Des bûcherons abattent des arbres et des charpentiers de marine travaillent le bois. Les bateaux sont aussi nombreux, bien entendu, lors de la traversée de Guillaume. On voit plusieurs types de navires, les bateaux qui servent seulement au transport et ceux qui sont réellement conçus pour la guerre. Et on reconnaît même le bateau amiral utilisé par Guillaume, dont la poupe était un enfant sonnant le corps. Il s'appelait le Mora.
Effectivement, les historiens de l'art s'accordent à caractériser la tapisserie d'original. Automne, expliquez-nous pourquoi.
Le médiéviste Michel Pastoureau parle d'unicum, un terme latin signifiant unique. Cette œuvre incomparable retranscrit la société de la fin du XIe siècle. La tapisserie met en scène la culture occidentale de cette époque. Les vêtements renseignent sur les goûts et les codes. Le traitement des personnages permet de distinguer leurs rangs sociaux. La représentation des armes informe sur les techniques de combat. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres, car cette œuvre est très riche iconographiquement. La tapisserie est aussi unique par la présence de signes héraldiques.
Ah oui, et que veut dire héraldique ?
L'héraldique est relatif aux armoiries. Les signes héraldiques permettent d'identifier les peuples et les grandes figures participant au combat. Par exemple, on y observe des symboles de corbeaux et de dragons en référence aux Vikings et aux Normands.
Très bien. D'après les rapports scientifiques, la tapisserie a subi des restaurations depuis 1860. Des fils teintés avec des colorants de synthèse indiquent ces modifications. Automne, que savons-nous des restaurations antérieures ?
Avant le XVIIIe siècle, les restaurations sont mal documentées. On sait tout de même qu'il y a eu environ 400 retouches au XVIIIe. Les restaurations sont bien documentées à partir de 1820.
Merci Automne, merci Morgane. Pour cette analyse de la tapisserie de Bayeux, nous allons passer à une chronique à propos de son prêt prévu en 2023 avec Léa Moreau. Mais tout de suite, une petite pause musicale. Après cette petite pause musicale, revenons à la tapisserie de Bayeux. Actuellement, au musée de Bayeux, la tapisserie, inscrite au registre mémoire du patrimoine de l'UNESCO, est sécurisée dans un sas. Bonjour Léa Moreau.
Bonjour Mathilde.
La tapisserie remémore à l'Angleterre que son histoire est liée au continent par cette invasion normande. L'actuel Premier ministre britannique Theresa May annonce le 18 janvier 2018 que la tapisserie traversera la Manche. Emmanuel Macron répond que le prêt serait possible. Certains conservateurs et médiévistes ont cru à une blague. Qu'en pensez-vous, Léa ?
L'historien Pierre Bouet, membre du conseil scientifique créé pour le futur musée, s'est exprimé sur le sujet. Il ne voit pas comment la déplacer. De son côté, l'Élysée a précisé dans un communiqué que le transfert aura lieu, mais sous réserve des exigences juridiques ainsi que dans le respect des conditions scientifiques de restauration et de préservation. Le directeur du musée de Bayeux, Philippe Chaperon, a confié que le prêt de l'œuvre n'est pas exclu. Mais il est estimé non envisageable par l'ensemble des partenaires au regard de son état de conservation. Philippe Chaperon ne dit pas que c'est impossible. Il dit seulement que ce prêt devra être étudié dans toutes ses dimensions.
Oui, la tapisserie est aujourd'hui en bon état grâce à sa stabilisation dans un sas hermétique et climatisé. Mais elle reste fragile. Lors de la transformation du musée de Bayeux, des études et restaurations sont prévues avant son prêt en 2023. Léa, qu'en disent les médias ?
À ce sujet, les inquiétudes sont multiples. La municipalité de Bayeux ne s'en réjouit pas. Elle a peur de ne pas la revoir. Ce prêt pourrait impliquer pour la ville une perte touristique et une perte sur le plan économique. D'après Ouest France, Bayeux ne serait budgétairement pas capable de prendre en charge son transport ni l'assurance. L'État français s'est porté garant. Il va mettre en place un cofinancement avec l'État britannique dans le cadre d'un partenariat sur la restauration. Le Royaume-Uni a prévu un budget pour couvrir le manque à gagner de Bayeux.
Oui, nous pouvons comprendre l'inquiétude de Bayeux. On pense notamment à la problématique qu'a pu poser la pierre de Rosette. Pouvez-vous préciser le contexte politique dans lequel a été fait l'annonce du transfert ?
Emmanuel Macron a annoncé ce prêt à un moment précis, où il tentait de convaincre l'Angleterre d'augmenter sa contribution financière à la frontière de contrôle à Calais. La défense, et la sécurité sont également en jeu. Il est aussi question d'accord sur le nucléaire.
En effet, la France est une puissance culturelle, mais aussi économique et militaire. À propos du transfert, que pensent les restaurateurs et les scientifiques ?
La restauratrice à la retraite, Béatrice Giraud, explique qu'en manipulant la tapisserie, on perd un peu de matière, donc un peu de résistance, que ce soit le lin de la toile de base ou la laine de la broderie. Le problème n'est pas l'âge, 1000 ans, mais c'est la taille. On ne peut pas transporter cette tapisserie comme un tableau dans une caisse, ni la rouler, car cela engendre des plis et des tensions. La restauratrice précise que le moindre frottement, le moindre pli, fait partir des petites fibres, car la matière est fragile en elle-même. Elle préconise le moins de manipulation possible, dans la mesure où cela est dangereux pour l'œuvre. Le médiéviste de renom, François Neveu, est aussi le président de la commission scientifique internationale en charge du projet muséographique. Il s'est exprimé sur France Info. Je cite « Si j'étais le seul à prendre la décision sur ce prêt, je dirais non. Ce qui se passe, c'est une décision politique. Il ne faut pas se cacher la réalité. Si le président de la République veut vraiment cela, je ne vois pas comment on pourra l'éviter, ni même comment la ville pourrait refuser. »
Merci Léa de nous avoir renseigné sur l'actualité et le contexte du prêt de la tapisserie de Bayeux. Nous allons maintenant donner la parole à Jeanne de Saint-Cernin. Elle va intervenir sur le sujet du nouvel aménagement du musée de Bayeux pendant le prêt de la tapisserie en 2023. Cet aménagement est prévu pour cette période. Bonjour Jeanne de Saint-Cernin.
Bonjour Mathilde.
Nous avons pu rencontrer ensemble M. Marcello Angeben, enseignant-chercheur en histoire de l'art à l'Université de Poitiers et membre de la commission scientifique du musée de Bayeux. Il a pu nous renseigner sur les aménagements actuels et ceux prévus pendant le prêt de la tapisserie. Jeanne, comment la tapisserie de Bayeux est-elle exposée aujourd'hui ?
Elle se trouve aujourd'hui au musée de Bayeux, dans l'ancien séminaire. C'est un bâtiment assez ancien, daté du XVIIe siècle. Mais ce bâtiment n'est pas dédié à recevoir une œuvre si monumentale qui, rappelons-le, atteint les 70 mètres de longueur. C'est pour cela qu'elle y est disposée tant bien que mal dans une salle selon un parcours coudé. Le visiteur peut quand même suivre cette visite à travers une sorte de couloir qui, à mi-chemin, tourne à 180 degrés.
En effet, je pense que nos auditrices et nos auditeurs peuvent entrevoir la difficulté d'installer une telle œuvre. Et qu'est-il prévu pour le futur réaménagement ?
Ces questionnements sont réfléchis au sein d'une commission scientifique établie à l'occasion. Pour ces problèmes d'espace, deux solutions sont proposées, qui sont les suivantes. Agrandir la salle actuelle en prenant sur la cour du séminaire de Bayeux, ou encore obtenir un nouvel emplacement qui pourrait être un parking situé à proximité du séminaire. Ces réaménagements induisent évidemment des impératifs de sécurité qui seront bien pris en compte pour le choix final.
Et du point de vue muséal, de l'installation muséale, pardon.
Pour qu'elle puisse être vue dans son entièreté, l'idée proposée serait une disposition en U ou bien en demi-cercle. Cela permettrait aux visiteurs d'avoir la liberté de lire l'œuvre selon plusieurs points de vue et même de déambuler autant de fois qu'ils le désirent, ce qui est plus compliqué avec le dispositif actuel. À cette solution s'ajoute, grâce à la proposition de Marcello Angeben, l'idée d'une tribune supérieure dédiée à la contemplation de la tapisserie. Cette tribune sera plus adaptée aux sensibilités artistiques des spectateurs, puisqu'elle permettra de s'arrêter de plus près aux nombreux détails de la tapisserie.
Mais également d'avoir une vision d'ensemble.
Exactement. Évidemment, les impératifs de sécurité pour la conservation de la tapisserie conditionnent tous ces projets, notamment pour le choix de la disposition en demi-cercle. Car le demi-cercle induit que la tapisserie devra être suspendue. Or, cela est néfaste car exerce une légère traction supplémentaire sur cette œuvre délicate. La solution serait donc de l'incliner légèrement afin qu'elle soit reposée sur un support. Il serait donc impossible de disposer la tapisserie en demi-cercle, mais en ligne droite, ce qui accentue le besoin d'un espace assez grand.
Cet aménagement implique donc un agrandissement de l'espace prévu pour la tapisserie. Le comité compte-t-il agrandir le musée tout entier ?
L'exposition de la tapisserie sera enrichie par deux espaces complémentaires. Le visiteur sera avant tout préparé en amont à la découverte de la tapisserie, avec une présentation de ses grandes lignes contextuelles. Puis, la nouveauté de l'exposition sera l'ajout de salles supplémentaires dédiées à recevoir et à exposer des prêts issus de musées externes.
Dont le musée du Louvre qui a donné son accord ?
C'est ça. Ces œuvres prêtées et exposées seront mises en lien avec les éléments de l'iconographie de la tapisserie. C'est une démarche vraiment enrichissante pour l'histoire de l'art et elle donnera aussi une vision plus complète de l'histoire de la Normandie entre le Xe et le XIIIe siècle. La charge de Marcello Angeben dans ce projet sera donc de coordonner le discours qui gravitera autour de la tapisserie dans ces salles.
Merci Jeanne, merci à toutes de nous avoir répondu à la problématique de la tapisserie de Bayeux. Un grand merci à Marcello Angeben qui nous a éclairé sur les installations prévues du musée de Bayeux. Merci à nos auditrices et nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.